Merci si vous joignez notre émission à l'instant. Eh bien, bonjour à tous. Vous pouvez réécouter notre première heure d'émission. On parlait entre autres des enjeux qui touchent la DPJ, bien sûr. On est complètement découragés aussi parce qu'il y a des gens qui ont des téléphones cellulaires dans les prisons. Alors, c'est deux sujets fort intéressants qu'on a couverts ce matin en première heure d'émission que vous pouvez réentendre en faisant, bien sûr, le titre de notre émission sur Internet. Vous allez cliquer sur Isabelle, sur le site également du 98.5 ou de votre station Cogeco respective et vous pouvez trouver toutes nos entrevues, incluant des entrevues sans filtre. Et tout à l'heure, je vous le dis tout de suite, nous aurons l'humoriste Sam Breton ensemble. Filtre. Mais d'abord, je vous l'ai dit hein, d'entrée de jeu qu'on allait parler de vos maux, de vos bobos, les maux de dos, les tendinites par exemple, tout ce qui fait mal. Vous savez qu'il y a beaucoup de travailleurs, des gars de la construction par exemple, les travailleurs qui occupent des emplois très physiques, sont sans doute les premiers à avoir mal, soit au cou, au bras, dans le dos, bas du dos. Aussi les employés de bureau, tous ceux qui ont des tâches répétitives. Vous savez, souvent on n'est pas ergonomique, hein? On n'est pas installé ergonomique au bureau malheureusement. Alors ça suscite toutes sortes de mots, ça génère toutes sortes de mots. Et c'est là où on a vraiment besoin des conseils de mon invité, le physiothérapeute Denis Fortier, auteur, conférencier. Merci d'être là, Denis.
Ça me fait grand plaisir, Isabelle.
Début d'année, tu finis l'année souvent raqué.
Oui.
Tu remarquais ça, que le monde est raqué en fin d'année.
Oui, on pousse la machine.
On pousse un peu la machine. On est complètement à moitié mort pour les parties de Noël. Et là, tu repars en janvier, tu as envie de repartir du bon pied, mais là, ton corps te rappelle qu'il a mal un peu. Et souvent, ce sont des mots qui viennent de posture. Ça, on s'en est déjà parlé. Il y a un truc intéressant, je trouvais, qui était sorti dernièrement, c'est les résultats d'une enquête qui a été publiée donc la semaine dernière par l'Institut national de santé publique du Québec, où on disait qu'il y avait près d'un million de Québécois, un travailleur sur quatre, donc, qui était affecté par ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques.
Oui.
Alors, j'ai pensé à toi, puis je me suis dit, il faut absolument que tu regardes ça. Tu as lu, évidemment, cette enquête. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça?
Bien, c'est un rapport qui est fort intéressant. On parle d'un million de personnes. C'est le quart des travailleurs. C'est quand même beaucoup, et c'est des mesures qui sont auto-rapportées. Donc, de ce million de personnes-là, il y a beaucoup de nos auditeurs en ce moment, et c'est pas nécessairement des douleurs qu'on va déclarer au travail, hein, ça inclut toutes les douleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. On retient aussi que c'est les ouvriers qualifiés, le personnel et ouvriers non qualifiés, les manœuvres et les personnes de 45-55 ans qui sont le plus concernés. Mais ça concerne vraiment toutes les catégories d'âge à des degrés différents, mais quand même, ça concerne toutes les catégories d'âge. Et moi, ce qui me décourage et qui me choque parfois un peu, c'est qu'on va banaliser souvent ces douleurs-là. Qu'est-ce qu'on offre à ces gens-là aussi comme traitement, comme ressource? On peut se poser aussi la question. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire aussi eux-mêmes pour s'aider? Bien sûr, on parle des travailleurs, mais on n'a pas deux corps. On n'a pas un corps qui va travailler et un corps qui revient à la maison. Donc, ce qu'on fait à la maison, nos activités, notre statut socio-économique aussi, il y a vraiment plusieurs éléments à considérer. Donc, ça ouvre la porte vraiment à une bonne réflexion complète, pas juste uniquement sur la douleur, parce que les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont une tendinite, qui les incommode, c'est la douleur.
Ouais.
Mais pour régler la douleur, il faut vraiment prendre compte de la complexité de la situation, comment on peut diminuer la douleur, mais surtout régler le problème qui cause la douleur.
Et on parle de quel genre de problème, justement? Quel genre de douleur qui touche quel membre?
Bien, ce qui est vraiment très fréquent, c'est les douleurs au dos et au cou, les douleurs musculo-squelettiques. Donc, aux os, aux muscles, aux tendons, aux tissus mous. Les épaules, c'est des douleurs qui sont vraiment très, très fréquentes. Les blessures aux chevilles aussi, mais ce rapport-là parle de blessures non traumatiques. Mais il y a aussi des blessures qu'on va se faire suite à une chute, suite à un accident aussi. On peut aussi en parler, bien sûr, aujourd'hui. Mais ça touche généralement davantage le cou, le dos, les épaules, les chevilles et bien sûr aussi toutes les articulations.
Oui. C'est des blessures qui peuvent être induites par le travail aussi, parce qu'on fait au travail?
Bien sûr, parce qu'au travail, on va d'abord, par exemple, faire des mouvements répétitifs, que ce soit en tenant une machinerie lourde qui vibre. Les vibrations, c'est un facteur de risque pour les problèmes musculo-squelettiques, mais ça peut être aussi à ne pas bouger, à tenir une souris d'ordinateur et à faire clic toute la journée, ou un clavier. Tu sais, des extraterrestres qui nous regardent, là, tenir un petit bout de plastique à faire clic toute la journée, mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres, avec ce bout de plastique-là? C'est pas normal. Le corps est pas conçu pour ça. Et ce que ça induit dans le muscle, autant notre travailleur manuel que la personne qui tient une souris d'ordinateur, ordinateurs ou un clavier, ça induit de la fatigue musculaire,
ça
induit de la fatigue sur les surfaces articulaires. Et à un moment donné, quand on fait ça pendant toute sa vie ou pendant plusieurs mois, ben le corps finit par envoyer un petit signal d'alarme. Youhou, ça marche pas, j'ai mal et je suis en train de me blesser. Et c'est, il faut écouter ces signes-là et il faut aussi les traiter et s'occuper un de ces travailleurs-là et de ces personnes-là qui ont des douleurs musculo-squelettiques.
Voilà. J'ai un Denis qui m'a écrit tout à l'heure et qui me disait qu'il a des gros problèmes de dos, hernie discale, hernie cervicale, discopathie dégénérative. Il se dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça me permet de poser la question à nos auditeurs. Si vous avez des problèmes, si vous souffrez de tendinite, de maux de dos, de troubles musculo-squelettiques, c'est le moment de poser des questions à notre physiothérapeute Denis Fortier. Je vous donne donc nos numéros pour nous joindre dans la grande région de Montréal, le 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Donc, pour répondre à la question de Denis,
Oui, ben oui, Denis va répondre à Denis. Ben, en fait, à comprendre la question, à entendre la question, alors, on a ici passé des tests d'imagerie médicale, probablement pour avoir ces diagnostics-là. On ne peut pas l'improviser.
Une hernie discale, si tu vois ça sur un...
Sur un test d'imagerie médicale, une résonance magnétique, par exemple, il faut absolument mettre en garde les gens aussi de ne se fier qu'à ça, parce que ça induit les gens en erreur. Il y a des gens, Isabelle, qui ont des hernies discales et qui n'ont pas de douleur au dos. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui le documentent. C'est une erreur de se baser que sur un test d'imagerie médicale. Ça prend un examen clinique. Est-ce que la hernie discale cause vraiment un problème? Ça, c'est vraiment une question fondamentale et c'est important de le faire, de passer les tests d'imagerie médicale aussitôt qu'on a une douleur au dos. C'est déconseillé par la majeure partie des corps médicaux. On déconseille, évidemment, là, je parle
Qu'est-ce qu'on déconseille?
De passer les tests d'imagerie médicale, des radiographies, des résonances magnétiques dans un contexte de routine. Bien sûr, si j'ai eu un accident d'auto, si on suspecte un cancer, on ne parle pas de ça. Donc, ce qu'on veut savoir pour
Mais toi, tu es pour ça? Tu dis qu'il faut en passer?
Ben, en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut faire un examen clinique.
Ouais.
Et non, il ne faut pas les passer de routine parce que ça nous induit
en,
c'est ça. Mais on le fait beaucoup, hein. On le fait beaucoup. En passant, ça coûte une fortune, ces tests-là.
Oui, c'est sûr. Mais des fois, tu fais un IRM puis tu vois rien, mais t'as mal pareil.
Ben, exactement. Parce que l'IRM, c'est comme si moi, Isabelle, je prends une photo de la porte de ton studio. Puis j'essaie de deviner si la porte ferme. Je le sais-tu, si la porte ferme, il faut que je la bouge. Il faut que je l'essaie, la porte.
Ouais.
Donc, il faut vraiment évaluer la mobilité, la souplesse, la force, l'endurance. Tu parlais de la posture au travail.
Ouais.
C'est pas magique, la posture. Si moi, depuis 20 ans, je me tiens un petit peu arrondi parce que je travaille avec l'ordinateur, par exemple, bien, d'apprendre à me tenir plus droit, c'est pas automatique, c'est pas juste pensé, sinon il faut vraiment rééduquer. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble pour répondre à la question de Denis. Vraiment vérifier sa souplesse, par exemple. Il arrive assez souvent que les patients vont avoir perdu soit de la souplesse ou de la force au niveau des muscles du dos, des abdominaux.
Mm-hmm.
Ça se rééduque, ça. Et parfois, des petits conseils simples nous permettent aussi de rétablir notre condition. N'oublions pas qu'il y a des gens, qu'il y a plein de personnes qui ont des hernies discales et qui n'ont pas de douleur. Donc, avoir un diagnostic de hernie discale, par exemple, c'est pas une condamnation à vie à avoir mal.
Et ça vient d'où, ça, l'hernie discale? C'est quoi, en fait?
Grosso modo, on a plusieurs vertèbres. On a des disques ou des coussins, si tu veux, entre chaque vertèbre. Et ces coussins-là finissent par s'user. Le gel qui est à l'intérieur du coussin va aller à l'extérieur et peut comprimer une racine nerveuse, peut comprimer un nerf. Je suis pas en train de dire qu'une hernie discale ne cause jamais de douleur, mais c'est l'usure du disque. C'est un processus généralement dégénératif, si on parle de blessures non traumatiques. Donc, on est des êtres qui dégénèrent, Isabelle.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
C'est comme ça.
On essaye fort d'éviter ça, mais ça a l'air qu'on n'est pas à l'abri de ça.
Oui, mais toutes les dégénérescences ne causent pas de douleur.
Non, d'accord, ça c'est bien appris. Oui. Benoît est avec nous. Bonjour Benoît, vous avez des questions?
Oui, une petite question. Moi, justement, j'écoutais tantôt, puis j'ai mal absolument à toutes les places que vous avez dit tantôt, dans le dos, dans le cou, les pieds, etc. Je me demandais comment savoir quel spécialiste aller voir, un physio, ostéo.
Ah mon Dieu, ça c'est tellement une bonne question. Ah, oh, c'est tellement une très bonne question, Benoît. Denis, as-tu la réponse?
Ben j'ai eu une première réponse que peut-être que Benoît va aimer, d'aller voir un professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel. Déjà, les ordres professionnels protègent le public. Mais déjà ça en élimine quelques-uns. D'abord, aller voir un professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel, et ensuite d'aller voir un professionnel qui va vous consacrer du temps. Donc ça, on vous consacre 5 minutes, et Benoît semble avoir plusieurs douleurs. 5-10 minutes dans un bureau, c'est insuffisant pour avoir une vie d'ensemble. Donc, il y a les chiropraticiens, il y a les physiothérapeutes, il y a les acupuncteurs, il y a les médecins, il y a les médecins spécialistes. Donc, ça en fait plusieurs. Et si je prends ma profession comme exemple, je suis physiothérapeute, bien, si je vois un patient, et c'est hors de mes compétences ou j'ai besoin de l'aide d'un autre expert, je vais le dire, je traite souvent des patients en équipe, disons. Donc, ça, c'est fondamental. Mais je veux absolument dire une chose aussi par rapport à la douleur, parce qu'on parle de douleur en ce moment, Isabelle.
Ouais.
Le cerveau, c'est l'organe qui gère la douleur.
Ben,
et on sous-estime l'importance du cerveau. Et le cerveau, c'est pas une boîte de fil électrique, ça. Il y a des réactions chimiques, il y a du sang, c'est un organe qui s'adapte à la douleur. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, je l'ai pas évalué, peut-être que Benoît, parce que, hypothèse, il y a des douleurs depuis longtemps, il y a des parties de son cerveau qui sont peut-être transformées et qui vont surréagir à la douleur. Ça s'appelle la sensibilisation centrale. C'est quelque chose qui est vraiment méconnu, qu'on ne considère pas suffisamment. La littérature scientifique le documente. Donc, la sensibilisation centrale, c'est votre cerveau qui, à force d'être bombardé par des signaux douloureux, va peut-être surréagir à la douleur.
On toujours être à « on » finalement.
Exactement.
C'est comme « on », t'as mal tout le temps,
c'est
partout.
C'est ça. Il n'y a plus de gradateur. On est toujours à « on », comme tu dis.
Mais donc, c'est-tu un neurologue qu'il faut aller voir dans ces cas-là? Moi, pour en avoir vu beaucoup sur ces questions de douleur chronique, les neurologues, là, ils savent pas trop quoi faire. Comme disait Boris Vian, là, tu sais... parlait de faut que ça saigne des fois. Quand ça saigne pas pour un médecin, c'est comme s'il peut pas t'aider, tu comprends?
Mais en fait, la sensibilisation centrale, cette hyper-réactivité-là du cerveau, tous les professionnels de la santé doivent connaître ça et tous les professionnels de la santé en tiennent compte. Moi, je suis physiothérapeute, je suis pas neurologue, mais je tiens compte du système nerveux. C'est comme si je disais, Isabelle, je te traite, mais je tiens pas compte de ton cœur. Voyons, on tient compte de l'ensemble du système et il faut intégrer.
Mais c'est-tu un interniste? C'est-tu un rhumatologue à ce moment-là? C'est qui donc?
En fait, un professionnel de la rééducation comme un physiothérapeute, on a des outils qui sont validés pour passer des tests comme ça et pour être très concret, parce que ça peut être un peu abstrait, parler de sensibilisation centrale. En fait, ce qu'on fait avec nos patients, les psychologues aussi sont formés pour ça, on va reprogrammer le cerveau, on va reprogrammer le cerveau à faire, par exemple, des activités qui causent de la douleur. On va y aller vraiment à petite dose, je te résume ça rapidement, et on va reprogrammer le cerveau pour que la douleur ne soit pas déclenchée systématiquement en s'étant assuré, bien sûr, qu'il n'y a pas de problème physique. Pour prendre l'exemple de Benoît, s'il y a une fracture à la cheville et il y a une douleur, je ne vais pas juste dire que c'est de la sensibilisation centrale. Mais s'il y a une fracture qui est guérie et qui a mal depuis 2 ans et il n'y a plus aucun signe objectif, mis à part qu'il y a des douleurs partout, je ne dis pas que c'est la seule issue, mais il faut tenir compte de ça et on n'en tient pas assez compte dans nos approches thérapeutiques. Et ce n'est pas que les neurologues ou que les physiatres ou que les physiothérapeutes, etc. On doit tous tenir compte de ça. Il y a des patients qui ne sont pas concernés, mais il y a des patients qui sont concernés et on n'en tient pas compte.
Et souvent, ce que les patients, j'imagine qu'il y a des auditeurs, auditrices qui sont fait dire ça par leur médecin, c'est de la fibromyalgie. Surtout si tu es une femme, là, depuis 40 ans ou même une plus jeune, tu te fais dire ça. C'est dans ta tête, c'est de la fibromyalgie, on peut rien pour vous. Prenez des pilules et souvent, on va te donner des opioïdes, on va te donner des médicaments qui sont assez forts, qui finissent par te faire beaucoup mal au système digestif. Écoute, je suis bien placée pour en parler, donc c'est du vécu. Donc, je peux te dire que des fois, parce que la sensibilisation centrale va expliquer ça à un médecin.
Il y a des médecins qui sont vraiment très sensibilisés à ça. Il y a des médecins dans les cliniques de la douleur. Mais il y a beaucoup de mes collègues qui le font. Ouais. Mais tu parlais de médicaments. Ça aussi, c'est important parce que le médicament qui est le plus souvent prescrit dans un cas de douleur et particulièrement de tendinite, c'est quoi? Des anti-inflammatoires. Le marché des anti-inflammatoires mondial, c'est 106 milliards de dollars. C'est 5 fois le restaurateur McDonald's. C'est énorme, d'accord? Et il n'y a aucune étude très étoffée qui démontre l'efficacité des anti-inflammatoires dans un contexte de tendinite. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on prescrit autant d'anti-inflammatoires?
Pourquoi?
Et on offre si peu d'autres solutions? Parce que, et là, je ne lance pas la pierre à personne, mis à part nos dirigeants qui nous ont fait un beau système de santé qu'on doit traiter les patients en 5 minutes, bien, un problème de douleur qui persiste, ça ne s'évalue pas en 5 minutes. Mais les médecins font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et ils vont prescrire des médicaments qui sont payés bien souvent par la RAMQ ou sinon qu'on peut se procurer en vente libre. Mais de prendre, entre autres, des anti-inflammatoires qui, je le répète, j'ai écrit un article sur mon blog là-dessus dont les effets ne sont pas vraiment bien documentés.
Il y en a qui prennent de la morphine tous les jours, Denis, parce qu'ils ont tellement mal, qu'ils se sont tellement fait dire « on ne peut pas vous aider, prenez des médicaments pour essayer un peu de soulager la douleur ». C'est rendu que c'est de la morphine.
Et ce qu'on peut lancer comme message à nos auditeurs, c'est qu'un problème de tendon, un problème de douleur au dos, c'est un problème mécanique. C'est d'abord un problème mécanique quand le problème est relativement récent. En plus, ça prend une solution mécanique. Donc, de prendre une pilule, parfois, dans certains cas, ça peut-être régler le problème, mais il faut aller à la source du problème. Si on parle de travailleur, est-ce que c'est votre posture? Est-ce que c'est des mouvements répétés? Est-ce que vous dormez bien? Mes patients qui ne dorment pas, qui dorment 5 heures par nuit et qui ont mal partout, le sommeil ou l'insomnie peut être et est très souvent associé à un problème de douleur persistante.
Ah oui?
Oui. Dans le rapport de l'INSPQ, dont on parlait en début d'entrevue, il soulève vraiment la condition psychologique de la personne. Les employés qui subissent de la détresse psychologique au travail sont plus à risque de douleurs musculo-squelettiques. Pourquoi? Je le disais tout à l'heure, parce que le cerveau, c'est pas juste un paquet de nerfs, c'est un organe qui vit, qui se transforme, qui s'adapte. Et il y a des réactions du système nerveux, entre autres le système nerveux autonome, qui peut influencer ces douleurs-là. Ce n'est pas qu'une douleur, on met un petit plaster là-dessus en bon français, puis on attend que ça passe. C'est quelque chose de complexe. Donc, il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Ah oui, moi, j'ai mal à telle place, à telle place, à telle place. J'ai de l'insomnie et j'ai fait une dépression il y a 3 ans et je pensais que c'était à cause de la douleur. » L'idée, c'est pas de culpabiliser les personnes, mais c'est de se dire que pour régler un problème de douleur persistante, il faut prendre soin aussi de sa santé en général, et j'ai nommé différentes composantes de cette santé-là.
Oui, puis on comprend que le stress en est une importante.
Fondamental, en fait.
On va s'arrêter ici. Denis, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes. Denis Fortier est physiothérapeute, c'est notre invité. On parle des problèmes que vous pouvez expérimenter parce que vous avez un travail qui est très physique, parce que vous êtes stressé, parce que vous dormez pas bien. Bref, vous avez de la sensibilisation centrale. J'adore ce titre parce que on commence à s'ouvrir un peu aux mots qui ne sont pas que des mots qu'on voit,
physique,
là,
oui.
Physique qu'on voit, de la douleur. Il y a tellement de monde qui en souffre. Là, on vient de parler d'un nouveau rapport qui dit qu'il y a à peu près 1 million de personnes, 1 travailleur sur 4 qui a mal quelque part puis qui est pas capable de forcément régler son problème. On vous parle après la pause. Si vous avez des questions pour Denis Fortier, 514-790-9850. Est-ce que vous souffrez de tendinite, de maux de dos, de troubles musculo-squelettiques? Il semble que, selon une enquête qui vient d'être publiée par l'Institut national de santé publique du Québec, il y a 1 million de personnes, 1 travailleur sur 4, donc, qui ont ce genre de problème qu'on appelle les TMS, pour troubles musculo-squelettiques. On parle ici de gens là, qui ont... C'est comme 25% des travailleurs sportiens. C'est pas à la suite d'un accident, là. C'est vraiment, comme Denis Fortier nous l'exprime depuis tout à l'heure, c'est vraiment des maux induits par toutes sortes de choses qui ne sont pas des accidents, c'est pas traumatique, c'est ça que tu nous disais.
Exactement, ça exclut les travailleurs qui ont eu une chute, qui ont eu un accident de voiture, bon, etc. C'est des douleurs qui ne sont pas secondaires à un traumatisme. C'est quand même 1 million de personnes, c'est vraiment beaucoup
qui
de monde.
Souffrent et qui n'ont pas forcément de réponse. Patrick, vous avez une question pour Denis Fortier?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, petite question vite fait. Problème au niveau de pas mal toutes les articulations, là. C'est un peu comme une porte qui grince, là. Je sens que les articulations grincent comme s'il manquait d'huile ou quelque chose, là. Puis je vis sur les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Y a-tu autre chose?
Denis?
Ben, évidemment, c'est une description assez sommaire, là, des gens qui ont, quoique c'est fréquent, des gens qui ont des douleurs partout et qui sentent que ce soit des bruits ou une raideur. Ou, donc, oui, il peut y avoir des processus dégénératifs, mais je pense que c'est intéressant de se concentrer sur les deux aspects du corps sur lesquels on a le plus d'emprise, c'est-à-dire sur le muscle, les muscles et le cerveau. Les muscles vont réagir, c'est-à-dire que si on fait de l'activité physique, si on a mal au dos, par exemple, on peut s'assurer que nos abdominaux et que les petits muscles du dos sont en bonne forme. Il y a des façons aussi, Isabelle, parce que tout le monde n'a pas accès à un professionnel de la santé. Hein.
Ouais.
Donc, de consulter des sites bien faits, de consulter des vidéos YouTube, de consulter différents... C'est aussi une voie qu'on a maintenant qu'on n'avait pas avant. Et donc...
Tu as écrit un livre aussi là-dessus, je vais quand même le nommer. 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, en plus de ton dernier, là, qui
s'intitule « C'est normal à votre âge ». Et c'est une de mes motivations, Isabelle, d'écrire ces livres-là, pour vrai, pour des gens qui n'ont pas des ressources. Donc, comme conseil qu'on peut donner à notre auditeur, c'est de prendre soin de ses muscles, tant dans leur souplesse, de leur endurance, dans leur force.
Donc, il faut bouger, c'est ça que tu dis.
Il faut bouger.
Mais c'est un cercle vicieux, Denis, parce que plus tu as mal, moins tu bouges, plus tu as mal.
Ah bien, le bouger, c'est le mot générique. Hein? C'est qu'on peut bouger. On peut faire des exercices spécifiques qui ciblent une articulation, et ces exercices-là spécifiques, comme je décrivais des façons de les trouver, ces exercices spécifiques-là s'adaptent. Et pour nos auditeurs qui ont mal partout, qui ont des douleurs multiples et qui ont des douleurs fragiles, c'est-à-dire qu'ils font un petit mouvement, ils ont mal pendant 3 jours, il faut maîtriser les paramètres de ces exercices-là, c'est-à-dire la vitesse, la durée, la présence de pause ou non, et la fréquence à laquelle vous allez faire ces exercices-là, est dosée à des fréquences tellement basses que vous n'allez pas déclencher de la douleur, et reconstruisez votre force musculaire. Et il y a aussi, sans trop élaborer, j'en ai déjà parlé, de prendre soin de notre cerveau, de nos capacités cognitives, de notre santé mentale, parce qu'avoir mal longtemps, ça mine le moral, là, d'aller marcher à l'extérieur, de prendre un peu d'air, de prendre soin de notre cerveau, c'est aussi essentiel, même si on se dit « ben non, moi j'ai mal aux articulations ». Non, il faut aussi prendre soin de sa santé mentale.
Ouais. Julie est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Ça va bien?
Oui.
Oui.
Et vous, avez-vous mal quelque part, Julie?
Ben oui. En fait, j'avais un travail très manuel. Et puis, récemment, là, je fais une épicondylite. Mm. Et puis, comme vous disiez tantôt, moi, j'aimerais éviter les anti-inflammatoires parce que je sais très bien que c'est très difficile pour le système digestif. Donc, je ne sais pas ce qui est possible de faire.
Merci de votre question, Julie. Dans le mot tendinite ou épicondylite, ça finit par ITE. Une épicondylite, ça fait partie des tendinites. Et une tendinite, ou si on prend un terme qui est encore plus juste, c'est la tendinopathie, c'est soit un phénomène inflammatoire ou dégénératif. Donc, si c'est inflammatoire, ou ça peut être les deux, on a besoin d'abord de repos. C'est pas toujours simple pour une épicondylite qui est une douleur au coude d'éviter les mouvements avec la main, surtout si on travaille avec notre main, si on fait un travail manuel comme Julie. Mm-hmm. Ça peut être aussi le repos général, de s'assurer de bien dormir, comme je le disais. Et donc, d'abord, c'est la première des choses à faire pour une épicondylite et d'aller voir si c'est un processus dégénératif ou si c'est un processus inflammatoire. Et on veut...
Comment on sait ça?
En fait, c'est difficile déjà à savoir parce que parfois les deux sont intégrés. Mais si on a une réaction inflammatoire, on va sentir peut-être un peu d'enflure. Peut-être qu'on va faire un mouvement, on va avoir mal pendant 3-4 heures. Puis le lendemain, ça revient à ce que c'était. Peut-être qu'on peut penser à un phénomène plus inflammatoire parce qu'un processus dégénératif, ça ne dure pas 3-4 heures. Là, c'est quelque chose qui se prépare graduellement. Et de prendre soin, donc je le disais, de ses muscles. Parce que une tendinite, c'est un problème de tendon. Le tendon, ça fait quoi? Ça relie le muscle à l'os. Mm-hmm. Donc, on veut reconditionner tranquillement le muscle.
C'est long, pareil.
Ça peut être long, et particulièrement pour une épicondylite, ça peut être particulièrement long. Et l'erreur, si je peux parler en termes comme ça, qu'on fait souvent, c'est qu'on va reprendre l'activité soit trop rapidement ou trop vite. Donc, il faut y aller graduellement. Et on revient au contexte de sensibilisation centrale parce que c'est vraiment très fréquent dans des contextes d'épicondylite parce que ça revient souvent. On veut s'assurer aussi de reprogrammer le cerveau pour être capable de faire une activité, par exemple, au travail, très graduellement pour que ça soit associé à une expérience positive plutôt qu'à de la douleur.
Voilà, il y a Muriel qui m'écrit. Elle dit, moi, j'aimerais vraiment avoir un conseil de votre invité parce que j'ai les deux pieds engourdis tout le temps et ça depuis 9 mois. Donc, son médecin de famille, Denis, l'a référé à un neurologue. Mais évidemment, 9 mois, hein? Elle attend toujours. Elle n'a pas eu d'appel encore. Mm-hmm. En attendant, toujours les pieds engourdis le matin et tout le temps. Même.
Quand on parle d'engourdissement, ça peut être plusieurs choses. Là, on parle de troubles musculo-squelettiques.
9 mois d'attente.
Ça, c'est sûr qu'il faut être patient pour être patient au Québec. Mais dans un contexte d'engourdissement, ça peut être, parce que ça touche sûrement beaucoup d'autres auditeurs aussi, la question de Muriel, ça peut être un problème nerveux. Donc, à la limite, il y a des hernies discales qui peuvent causer ça, à la limite. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi un problème vasculaire. Ça peut être aussi un problème neurologique, qui a besoin d'une consultation donc en neurologie. Ça peut être plusieurs choses. Donc, des problèmes d'engourdissement décrits de façon très générale, comme ce qu'on vient d'entendre, ça peut être plusieurs choses et c'est important de comprendre la cause du problème. Parfois, on n'arrive pas non plus à comprendre qu'est-ce qui cause ces engourdissements-là. Ça peut être un processus dégénératif, mais vraiment d'avoir une bonne évaluation. Et oui, c'est déplorable d'avoir à attendre 9 mois pour voir un neurologue.
Bon, il y aura une phase 2 à notre entrevue d'aujourd'hui avec toi, si tu veux bien revenir peut-être la semaine prochaine ou d'ici les prochains jours, parce que nos lignes sont pleines, mais comme disait l'autre, c'est tout le temps qu'on avait.
Et oui.
Il y a quand même une dernière question de Jean-Yves. Pour le mal de dos chronique, il voudrait que tu nommes les spécialistes par ordre de priorité. Il dit, c'est qui? Je vais voir mon médecin de famille, puis après ça, j'attends qu'il m'amène à voir un spécialiste.
Si on parle de
spécialistes,
on parle d'experts en général, les professionnels de la santé, il y a les physiothérapeutes, il y a les physiatres qui sont des médecins spécialistes, il y a les orthopédistes, il y a les neurochirurgiens, il y a les médecins généraux, il y a les médecins qui travaillent en médecine sportive, entre autres.
Bon, dès que tu veux voir un spécialiste au Québec, prends ton mal en patience, c'est ça qu'il faut dire. Peut-être qu'un physio, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Denis Fortier.
Grand plaisir.
C'est toujours beaucoup, ça nous aide toujours beaucoup.
Merci.
Ça nous fait du bien, tes conseils. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois en entrevue sans filtre un jeune humoriste qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est la révélation de l'année au dernier gala des Oliviers. Je reçois Sam Breton. À tout de suite, tout le monde.